Soyons attentifs en ce temps-là, comme Jésus approchait de Jéricho. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant marcher la foule, il demanda ce que cela signifiait. On lui annonça que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête le menaçaient pour qu'il fasse silence, mais il criait d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta donc et ordonna de le conduire vers lui. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, fais que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Que la vue te soit rendue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il recouvra la vue, et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, voici que nous avons entendu l'évangile de l'aveugle qui habite à Jéricho. Et on peut se poser la question, mais dans quelle mesure est-ce que cet évangile se rapporte à nous, nous qui avons la possibilité de voir convenablement? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus de cet évangile, hormis le fait que, encore une fois, le Christ fait un miracle, qu'encore une fois, il vient en aide aux malades, aux personnes infirmes? Et donc cela, évidemment, est une réalité, que le Christ vient à toute personne qui en a besoin, mais ce qui se passe, c'est que cet évangile nous est adressé à nous aussi, parce que nous sommes aveugles aussi, dans la mesure où nous avons un aveuglement spirituel. Et cela, ce n'est pas une nouveauté, parce que déjà même à l'époque pré-chrétienne, les sages le savaient. Quand on lit, quand on prend conscience de ce que Platon enseignait, je ne vais pas aller dans les détails, mais je prendrai seulement l'exemple où il dit que nous vivons comme dans une grotte, où nous ne voyons pas la réalité, mais nous ne voyons que l'ombre de la réalité. Donc c'est bien une preuve que déjà à l'époque, les hommes étaient conscients du fait que nous sommes aveugles, que nous voyons de manière faussée, de manière trouble. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous, cette vision que nous n'avons pas pleinement? Ça veut dire que nous ne voyons pas les choses dans leur réalité, mais nous les voyons sous les prismes de notre égoïsme, sous le prisme de notre monde intérieur. Nous jugeons le monde extérieur. Et c'est là le chemin que nous devons essayer de prendre, c'est d'apprendre à voir les choses correctement, dans la vision totale, dans la vision qui est la réalité, la vérité. Et cela demande, pour que cette chose se fasse, demande un travail, si je peux dire, de présence du Saint-Esprit en nous. Pour que nous voyons la vérité, il faut que, ou la réalité, il faut que nous puissions nous purifier intérieurement. Et alors, tout doucement, nous voyons les choses comme elles sont. Et c'est là, effectivement, où Dieu vient accomplir ce miracle en nous, quand nous arrivons à discerner les choses dans leur manière juste. Sans Dieu, nous n'arrivons pas à retrouver la vue. Mais pour que nous puissions retrouver la vue, nous devons aussi demander à Dieu de venir faire sa demeure en nous et faire comme l'aveugle disait, « Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, Fils de Dieu, aie pitié de moi », d'avoir ce lien avec Dieu pour que nous puissions revoir les choses dans sa réalité. Et c'est là que, tout doucement, notre ego commence à disparaître, que notre confiance en Dieu augmente et que, effectivement, notre foi en Dieu permet de voir les choses différemment, de voir les choses comme elles sont. Et c'est à ce moment-là aussi que, tout doucement, comme Saint Paul le dit dans la lettre aux Éphésiens que les égaux tombant, la paix vient, que les antinomies, les antagonismes, les compétitions disparaissent pour vivre rassemblés dans le Seigneur. C'est ce que Saint Paul dit, c'est ce que nous avons lu aussi d'ailleurs dans les tropères du canon des Odes ce matin, que par la croix, il a tout réuni en son centre et il a donné la paix. Et cette paix n'est pas une paix mondaine, n'est pas une paix donnée par la volonté de l'homme, mais bien une paix donnée par la présence de Dieu en nous qui nous permet de voir des fois l'absurdité pour laquelle on peut se disputer, l'absurdité pour laquelle on peut dépenser tellement d'énergie. Et c'est cela que le Christ nous apporte, c'est la réconciliation intérieure, mais aussi la réconciliation avec le monde qui nous est extérieur. C'est une richesse, évidemment, parce que, comme vous le savez, la plus grande chose que nous pouvons avoir, c'est la paix. C'est ce qui nous donne le bonheur. Si nous avons la paix intérieure, nous sommes calme, nous arrivons à voir les choses calmement, nous arrivons à voir les choses avec justesse et nous avons aussi le bonheur. Rechercher la paix, c'est ça qui est le grand trésor, c'est la paix qui est le grand trésor qui nous est promis par Dieu et que nous arrivons à obtenir si nous faisons comme l'aveugle, que nous prenons connaissance de notre aveuglement et que nous ayons le désir de retrouver la vue. Et que pour retrouver cette vue, nous savons que la seule personne qui peut nous l'apporter, c'est le Christ, et par la présence du Saint-Esprit. Cela, nous essayons déjà de l'accomplir au sein même de l'Église chrétienne orthodoxe, et puis au sein même de chaque petite paroisse. Et comme le Saint-Apôtre Paul expliquait bien que le Christ est le sommet de cet édifice qui est l'Église. C'est lui qui chapeaute le tout et que de lui vient toute la grâce, le don du Saint-Esprit. Et chaque petite paroisse est quelque part à l'imitation de cet grand édifice. Et ce petit édifice est une réplique du grand édifice, comme on pourrait dire dans le corps humain, il y a l'ADN qui se réplique dans tous les membres de notre corps, que ce soit des cheveux, au cœur, ou pour passer par l'estomac, ou plutôt pour passer, enfin, peu importe. Mais donc, on comprend que cet ADN est une répétition de ce qui est notre authenticité, notre identité. C'est la même chose pour chaque petite paroisse qui est une répétition de l'identité de l'Église universelle, l'Église chrétienne orthodoxe. Et donc, chaque petite paroisse est gérée quelque part de la même manière que la grande Église. Et comme dans toute association, dans tout organisme, il y a une particularité pour chacun des membres. C'est-à-dire que chacun doit connaître sa fonction au sein de l'Église, bien que nous soyons tous interconnectés. Et c'est là, effectivement, aussi que quand chacun prend conscience de la place qu'il a dans l'Église et n'empiète pas sur l'autre, qu'il y a une harmonie. Comme pour dans le corps humain, chaque membre a sa fonction et il est bien que chaque membre n'empiète pas sur la fonction de l'autre, ni qu'un membre soit défaillant pour qu'il doive plus pomper dans les autres membres. Cela, on l'a déjà expliqué, mais c'est aussi important, pourquoi je le dis, pour avoir cette paix, cet amour dans l'Église. Dieu aime quand les choses sont ordonnées, quand les choses sont respectées. C'est un petit peu aussi comme dans une famille. Les parents ont leur fonction et les enfants ont la leur, si je peux dire. Ce n'est pas aux enfants à dire aux parents ce qu'ils doivent faire, et c'est aux parents à faire aussi ce qu'ils doivent faire. C'est la même chose dans une paroisse. Donc il est important de prendre conscience de ça pour que, effectivement, nous soyons à l'image de cette Église universelle, pour que l'Église paroissiale puisse fonctionner dans une harmonie. Cela, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, peut-être dans le monde qui est le nôtre, tout le monde aurait un petit peu tendance, avec l'individualisme, à jouer aux responsables ou à donner des ordres ou à dire ce qu'il y a à faire, c'est important de garder cette harmonie, important de garder notre place chacun. Sinon, effectivement, tout est chamboulé et ça devient plutôt un rassemblement que véritablement une église. Je le dis pas spécialement pour cette paroisse, je le dis de manière générale parce que je sais comment ça se passe aujourd'hui de manière générale dans l'église. On a un petit peu perdu le sens de la hiérarchie, le sens du sacré aussi, et il ne faut pas se laisser trop influencer par cet esprit du monde, ne pas le faire rentrer dans l'église, même si aux yeux du monde, cela peut paraître, ce qui était le cas dans l'Église catholique, comme un cléricalisme. Ce n'est pas le cas dans l'Église. Chaque personne a sa fonction et chaque personne reçoit la grâce de Dieu pour accomplir cette fonction au sein de l'Église. Comme chaque membre d'un corps d'une personne a reçu la grâce, si je peux dire, à sa naissance, d'accomplir cette chose qu'il apporte pour le corps de la personne. Voilà ce petit mot que je voulais dire, donc ne pas oublier de demander à Dieu toujours que nos yeux puissent s'ouvrir encore plus, que nous mettions notre confiance en lui, que nous ne mettions pas trop confiance dans nos schémas, dans notre logique, mais que nous soyons toujours à demander en priorité que Dieu soit avec nous et que nous puissions faire sa volonté. C'est ainsi que nous arriverons à vivre conformément à ce qu'il veut, que nous arriverons à nous purifier, à vivre dans la paix et aussi à pouvoir trouver notre vraie fonction qui plaît au Seigneur et ainsi être membre de l'Église dans sa totalité. Et c'est ainsi que nous recevons la grâce du Saint-Esprit qui était promise par le Christ le jour de son ascension et qui est attestée par saint Paul, par tous les apôtres et encore aujourd'hui qu'elle est présente dans l'Église. Amen.